en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Et si l'extinction des dinosaures n'était pas liée à la chute d'une météorite ? Si la théorie de l'évolution n'était pas celle que l'on croyait ? Si l'homme n'était pas qu'un simple être vivant ? Dans cette deuxième retransmission sur la modernité de l'évolution, organisée par l'Académie des sciences en commémoration du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et du 150e de l'apparition de l'origine des espèces, trois chercheurs se sont penchés sur la théorie de l'évolution. L'évolution, ou plutôt l'extinction des espèces, la disparition des dinosaures ne serait-elle pas simplement liée à la chute d'une météorite ? Vincent Courtillot, membre de l'Académie des sciences, vous expliquera dans son exposé qu'une deuxième théorie viendrait remettre en question notre perception que nous avons de cette extinction il y a 65 millions d'années. Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France, reviendra quant à lui sur l'évolution de l'homme depuis ses origines. Enfin, Denis Duboul, membre de l'Académie des sciences, évoquera la question de la théorie de l'évolution entre variation et sélection, en revenant sur le développement embryonnaire.
Alors, je ne suis pas expert comme le précédent président de séance de l'œuvre de Charles Darwin, peut-être n'ai-je pas tout trouvé, mais j'ai trouvé assez peu d'allusions à l'extinction des espèces par opposition à l'origine des espèces. La plupart de ces allusions, ceci dit tout à fait explicites, est dans le chapitre 10 où d'abord Charles Darwin lit de façon très claire la disparition des anciennes formes et la production de formes nouvelles. Donc on voit que la notion d'origine et la notion d'extinction sont pour lui intimement liées. Bien sûr, vous savez tous qu'il rejette l'idée précédente de catastrophe généralisée, de création successive générale. Et enfin, et nous avons entendu de plusieurs des orateurs ce matin, en particulier du dernier exposé de Kevin Badian, qu'il fallait comprendre le terme de graduel de deux façons possibles. C'est une chose qui m'avait échappé quand j'ai repris cette citation que vous voyez en dessous. Au contraire, nous avons toute raison de penser que les espèces et les groupes d'espèces ont disparu de manière graduelle. Sauf qu'à certains moments, il était déjà évident au milieu du 19e siècle pour la plupart des paléontologues qu'il y avait des périodes particulières dans l'histoire de la Terre où les disparitions étaient considérables, concernaient des groupes entiers d'êtres vivants, comme c'est indiqué dans cette autre citation du chapitre 10 de l'origine des espèces, et qu'elles étaient « wonderfully sudden ». Alors là, on voit opposer la notion de graduel à la notion de soudaineté, mais on revient dans la dernière citation que j'ai choisie ici sur la notion de temps profond, dont Braudel parle à l'échelle historique et qui est si nécessaire aux géologues. Nous aurons besoin de la mesure du temps. Donc vous voyez, pour ce qui est de ces exterminations soudaines, souvenons-nous qu'il existe probablement de grands intervalles de temps entre les formations géologiques consécutives, et dans ces intervalles, il peut y avoir beaucoup d'exterminations lentes. Donc je pense quand même que quand Darwin pensait à l'extinction des espèces, et il n'y pensait pas beaucoup, il n'en parlait pas beaucoup, il en pensait avec le sens de lenteur, et il avait cette idée de la profondeur du temps géologique, qui, comme on l'a vu ce matin, l'a opposé à Kelvin, et où sa géologie avait raison de la physique dogmatique et exigeante de Kelvin. Donc cette notion du temps profond était tout à fait essentielle. Après 150 ans de travaux supplémentaires par nos collègues paléontologues, nous avons désormais une base de données sur l'évolution de la biodiversité qui est évidemment considérable, sortant d'une des recensions ici de la diversité du nombre de familles marines. Si vous regardez la courbe qui est en bas à droite, cette courbe vous présente donc l'évolution du nombre de familles marines de fossiles identifiées par les paléontologues et rapportées à des époques qui vont du début du Cambrien, il y a un peu plus de 560 millions d'années, ici ça commence à 600 millions d'années, jusqu'à l'actuel. Donc vous lisez ce diagramme de gauche à droite, vous y voyez l'explosion cambrienne avec l'augmentation du nombre de familles qui arrive à un plateau. Vous y voyez une série d'accidents sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais ce plateau a l'air de durer jusqu'à il y a à peu près 250 millions d'années, où intervient une des très grandes coupures de l'histoire de la vie, qui servira ensuite à marquer l'échelle des temps géologiques, puisque c'est la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, ou le paléozoïque et le mésozoïque. La vie repart après, à nouveau une série d'accidents, et vous voyez, il y a 65 millions d'années, celui qui est peut-être le plus connu du grand public, qui est la limite cette fois-ci entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, ou le mésozoïque et le cénozoïque, avec la disparition des ammonites « wonderfully sudden », comme disait Charles Darwin, mais aussi des dinosaures, chers à l'un de nos deux organisateurs, et de bien d'autres espèces. Si vous regardez la dérivée, en gros, de cette courbe, vous regardez les points qui sont en haut, vous avez le taux d'extinction par unité de temps. L'unité de temps dans cette recension est de l'ordre de la dizaine de millions d'années. Donc vous n'avez un point que tous les 10 millions d'années. La résolution temporelle est assez mauvaise, mais vous voyez quand même que la bande grisée vous indique qu'il y a tout le temps des extinctions. Qu'on a pour une espèce un peu la même notion que pour un individu, c'est-à-dire il y a une durée de vie moyenne et les espèces disparaissent, soit complètement, soit pour être remplacées, vous le savez. Et donc ces extinctions sont une part absolument inhérente de l'évolution elle-même et c'est ce que j'appelle ici le bruit de fond de l'évolution qui ne nécessite rien d'autre que des situations analogues à la situation actuelle en vertu du principe uniformitariste ou principe des causes actuelles, c'est-à-dire des phénomènes, une évolution, des couplages entre les espèces biologiques, entre les espèces et leur milieu, qui conduisent à des évolutions, parfois par simple fonctionnement du système biologique interne et parfois en réponse à des contre-réactions du milieu. Mais vous voyez que par-dessus ce bruit de fond, il y a quelques périodes dans l'histoire géologique où manifestement le taux d'extinction est tout à fait exceptionnellement élevé. Et la plus récente, la plus proche d'entre nous, parmi ces extinctions qu'on appellera en masse, est une extinction qui marque donc la limite entre ère secondaire et ère tertiaire, ou ce qui revient au même, entre le Crétacé et le Tertiaire. Et je passerai un petit moment à vous parler de cette extinction qui a vu la disparition il y a 65 millions d'années en assez peu de temps pour un géologue. Et nous allons passer du temps dans cet exposé à parler du temps et de la mesure du temps, en combien de temps et quand s'est produite cette extinction. Depuis une trentaine d'années, alors que de nombreuses théories ont été proposées au cours du dernier siècle pour expliquer cette extinction en masse de la fin du Crétacé, deux théories principales ont été exposées. J'allais dire se sont opposées, mais vous verrez qu'elles ne s'opposent pas forcément. L'une qui est la plus connue, la plus médiatisée, qu'on retrouve dans tous les livres et en particulier dans tous les recueils de géologie introductive aux États-Unis, c'est l'idée de la chute d'une météorite qui aurait causé des modifications de l'environnement telles que de nombreuses espèces n'y auraient pas survécu. Je vous rappelle que cette extinction en masse voit disparaître en peu de temps pour le géologue les deux tiers de toutes les espèces qui vivaient à la surface du globe. Donc c'est un événement qu'on a beaucoup de mal à imaginer dans toute son intensité. La théorie alternative, peut-être, est la théorie que j'ai proposée, mais pas seule, depuis une trentaine d'années, et qui propose que ce sont les exhalaisons de volcans gigantesques qui sont responsables des modifications écologiques et climatiques qui ont entraîné les disparitions. À l'appui de la première thèse, de la thèse de la météorite, un travail dû entre autres à un collègue géologue, Walter Alvarez, qui est dans la même université que Kevin Padion, et qui, travaillant sur les séries que vous voyez ici, des séries de calcaire de la fin de l'ère secondaire et du début de l'ère tertiaire à Gubbio ou à côté de Gubbio en Italie, dans la province d'Ombri, a remarqué cette couche que vous voyez ici qui fait en gros 2 cm d'épaisseur, une couche d'argile rougeâtre. En dessous, vous avez les calcaires dont les fossiles sont caractéristiques de la fin du Crétacé. Et ici, dans ces calcaires un peu plus rosâtres, vous avez les fossiles caractéristiques de l'ère tertiaire. Et donc, il s'est passé quelque chose de considérable pendant le temps qui est enregistré dans ce niveau d'argile. Ce qu'ont montré Alvarez et ses collaborateurs, notamment son père, c'est une concentration tout à fait exceptionnelle d'un métal qui est l'iridium, qui est un métal extrêmement rare dans les roches naturelles de la croûte terrestre. Il pourrait être plus abondant dans les parties très profondes du globe. En tout cas, il est présent dans les météorites et c'est un des premiers arguments qui a plaidé pour l'idée que cet iridium aurait été déposé dans ces couches à ce moment-là par l'impact d'une météorite. Qui plus est, le cratère d'impact de la météorite a été trouvé au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, où la gravimétrie a révélé, vous le voyez ici, cette structure faite d'un certain nombre de ronds concentriques. L'échelle, c'est une centaine de kilomètres de diamètre. L'objet que vous voyez là, cette fausse topographie, c'est en fait le champ de pesanteur mesuré de façon très précise à la surface d'une zone qui fait à peu près 200 km sur 200 km. C'est un travail qui était dû à des pétroliers qui cherchaient sous les sédiments du pétrole. À la surface, vous ne voyez pratiquement rien parce que la structure que vous voyez là, c'est l'impact dans la croûte granitique souterraine qui depuis a été remplie de sédiments qui cachettent et qui cachent en grande partie la trace de cet impact. Depuis, on l'a foré, on a trouvé des roches fondues qu'on a pu dater par les méthodes de la géochronologie et qui a 65 millions d'années avec une très bonne précision. Et donc, il est très raisonnable de dire qu'on a là, d'abord, l'un des plus grands impacts connus à la surface de la Terre et d'autre part, un impact qui coïncide avec l'âge de la limite Crétacé-Tertiaire. Le travail que, indépendamment et parallèlement, nous menions au milieu des années 80 avec l'équipe que j'animais, s'était focalisé sur l'Inde et dans l'Inde, sur une formation géologique que vous voyez ici cartographiée en vert et dont vous voyez une photo typique le long de la côte au sud de Bombay, dans ce qu'on appelle la côte de Mahabaleshwar. Et vous voyez ici un empilement extraordinaire de coulées de lave dont la composition chimique est prodigieusement monotone. Il s'agit pour les techniciens de basalte toléitique, tout à fait typique d'un certain type de volcanisme qu'on appelle le volcanisme de point chaud. Ces basaltes sont relativement communs à la surface du globe, bien que certaines de leurs caractéristiques chimiques, qu'on verra peut-être plus tard, permettent de les marquer comme étant particuliers. Mais surtout, c'est un objet géologique considérable, puisque la surface qui reste aujourd'hui de cette lave couvre une surface égale à celle de la France et que l'épaisseur de ces coulées, l'épaisseur totale de la pile, atteint probablement 3000 mètres. Donc vous imaginez la France sous 3000 mètres de lave, ça vous donne une idée du volume de lave qu'il a fallu fabriquer. La question c'est évidemment quand et pendant combien de temps. Et c'est à ce travail que nous nous étions attaqués à la fin des années 80, début des années 90, et où la réponse nous a été apportée, j'insiste toujours là-dessus parce que c'est scientifiquement intéressant pour moi, par la combinaison de trois disciplines, le paléomagnétisme qui était ma discipline d'origine, mais une collaboration essentielle avec les spécialistes de la géochronologie, la mesure du temps par isotope, l'extension de ce que tout le monde connaît sous le nom de carbone 14 à d'autres éléments qui permettent de dater les périodes géologiques beaucoup plus anciennes, et la paléontologie, tout à fait essentielle dans l'ensemble de ce travail. Commençant par la contribution des paléomagnéticiens, cette diapositive est là pour vous rappeler que la Terre a un champ magnétique, que ce champ magnétique est à peu près analogue à celui que donnerait un barreau aimanté pas très loin de l'axe de la Terre et au centre de la Terre. Vous voyez les lignes de force de ce champ magnétique. Ça a été un des éléments essentiels de la mesure et de la vérification de la dérive des continents. Mais ce n'est pas de ça qu'on va se servir ici. On va se servir du fait que ce champ, il s'est inversé pôle pour pôle des centaines de fois dans l'histoire de la Terre. La dernière fois, c'était il y a 780 000 ans. Pour un géologue, c'est rien du tout. L'espèce humaine était déjà présente et donc a traversé une de ces inversions du champ magnétique. Vous savez que le champ magnétique a baissé d'intensité d'un facteur pratiquement 2 depuis le temps des Romains. Donc si on extrapole 2000 ans, on passe par zéro, ce qui nous vaut parfois, quand on dérape un peu dans le plaisir qu'ont certains à faire peur, à dire que peut-être le champ magnétique va s'inverser dans 2000 ans. En fait, ce n'est pas le sujet de mon exposé aujourd'hui, mais je vous rassure tout de suite en vous disant qu'il est totalement fluctuant, aléatoire et imprévisible et que la probabilité d'une prochaine inversion est faible et en tout cas absolument pas démontrée comme on le dit parfois. Mais le fait qu'il se soit souvent inversé dans les temps géologiques est pour nous passionnant parce qu'un certain nombre de roches sont capables de garder la mémoire de ce champ magnétique, en particulier les laves quand elles se refroidissent. Elles contiennent un tout petit pourcentage d'un minéral ferrimagnétique pour être précis pour les physiciens qui seraient dans la salle, qui est la magnétite. Et ce quelques pourcents de magnétite dans la lave basaltique va figer quand la température descend au-dessous de 700 degrés environ, qu'on appelle température de Curie. C'est Pierre Curie qui a attaché son nom à cette température critique en dessous de laquelle se fige l'aimantation. Eh bien, il garde la mémoire de la direction du champ magnétique et de sa polarité. Et en travaillant des dizaines d'équipes depuis des dizaines d'années, il a été possible de reconstituer l'échelle des inversions du champ magnétique dans le passé, depuis le présent qui est situé à droite, jusqu'à ici le Jurassique, il y a 170 millions d'années. Vous voyez que ces inversions sont extraordinairement irrégulières. Vous voyez que dans la période récente, la fréquence des inversions est relativement élevée, quelques inversions par million d'années, alors qu'il existe une période dans le Crétacé où pendant 30 millions d'années, le champ magnétique ne s'est pas inversé. Comprendre pourquoi ces fluctuations de fréquence des inversions se produisent est en soi un des problèmes passionnants de ma discipline, la géophysique, mais ici nous nous servons de ce produit comme d'un outil de datation et vous voyez sans peine que si on est capable d'identifier correctement une séquence d'inversions suffisamment longue, c'est un peu comme un code barre d'un produit que vous achetez chez le commerçant, la signature est très souvent unique et permet de reconnaître et de dater de manière absolue et l'âge et la durée d'un phénomène géologique. Et quand nous sommes allés dans les 3000 mètres de lave du Deccan que nous avons échantillonné de la base au sommet et dont nous avons ramené les échantillons ici chez nous pour les mesurer, eh bien nous nous sommes aperçus que ces laves n'avaient enregistré en tout et pour tout que deux éruptions. Les premières coulées du base sont dans la polarité marquée ici en noir, que nous appelons normale parce que c'est la polarité actuelle. Et puis vous avez une vaste séquence qui est aimantée en polarité inverse et quelques coulées aimantées au-dessus en polarité normale. Donc vous voyez qu'avec cette information, Au lieu de ce que nous croyons quand nous sommes partis, c'est-à-dire que la lave s'était émise sur 40 millions d'années, la fenêtre rouge que vous voyez apparaître, c'était en gros l'estimation d'âge des trappes du Deccan quand nous y sommes allés. On aurait dû enregistrer des dizaines d'inversions du champ magnétique. En fait, nous n'en avons enregistré que deux. Et donc, il fallait caler ça quelque part. Le problème, vous voyez sans difficulté que si le codage, c'est simplement noir, blanc, noir, le nombre de solutions devient absolument considérable. Et donc, vous avez simplement une indication que les éruptions ont dû être beaucoup plus brèves qu'on ne le croyait, mais vous n'avez pas l'idée de la corrélation. Et c'est là que la datation par les isotopes du potassium et de l'argon nous amène à un âge de 65 millions d'années, plus ou moins un. Et quand on représente cet âge absolu et cette incertitude, il ne reste plus que deux ou trois solutions possibles. Mais on n'a pas encore éliminé toutes les possibilités. Et c'est la paléontologie, par l'observation de cette dent millimétrique d'une raie connue seulement dans les derniers étages de la fin du Crétacé et prise en sandwich entre deux coulées volcaniques, qu'il a été possible de dire qu'une seule corrélation était possible et que la limite Crétacé-Tertiaire était bien contenue dans la période magnétique inverse qui avait enregistré la plupart des trappes du Deccan. Et donc vous voyez qu'avec ça, il était raisonnable de dire ben, est-ce que ce ne serait pas les exhalaisons de ces trappes qui ont juste le bon âge pour éteindre les ammonites et les dinosaures, et qui apparemment sont beaucoup plus violents qu'on ne l'avait cru, puisqu'ils ne s'étalent pas sur 40 millions d'années, mais sur seulement environ 1 million d'années. Réaction immédiate, puisque la théorie de la météorite précédait la théorie volcanique de quelques années, c'est de dire ou bien il y en a un des deux qui se trompe, ou bien les deux se trompent, ou bien l'un est conséquence de l'autre. Et une idée qui est tout de suite venue à tout le monde, évidemment, a été est-ce que la météorite, quand on reconstitue les continents dans leur position d'il y a 65 millions d'années, il se trouve que l'Inde n'est pas très loin des antipodes du Mexique. Et donc on s'est demandé si l'impact de la météorite au Mexique aurait pu, par propagation d'ondes et en craquant la croûte, déclencher les éruptions volcaniques dans le Deccan. Je pense qu'il y a des tas d'arguments physiques pour dire que c'est très difficile d'imaginer un tel mécanisme, mais de toute façon, la géologie du XVIe siècle de M. Stenon nous apprend qu'il n'en est rien, car dans cette province du Kutch, qui est au nord-ouest de l'Inde, nous avons retrouvé des sédiments, là encore pris en sandwich entre les coulées, à l'intérieur desquels notre collègue Robert Rocchia a identifié une concentration anormale d'iridium qui signe la présence de la météorite. Donc il y a bien eu chute de météorite, elle s'est bien produite entre guillemets en même temps que l'éruption des trappes du Deccan, sa photographie est prise alors que les éruptions avaient déjà commencé, et donc il ne peut pas y avoir de relation causale entre les deux. Première conséquence que beaucoup de gens ont refusée pendant un certain temps, c'est ces deux catastrophes exceptionnelles se sont bien produites dans la même fenêtre de temps de l'ordre du million d'années, mais quand nous étions au début des années 90, notre idée était l'impact c'est quelques secondes, le volcan c'est un million d'années. Et de cette différence de temps, est née pendant quelques années une controverse dont je vous reparlerai, mais le temps ne me permet pas d'être plus long sur cette extinction particulière. Et le second élément que toutes les équipes de recherche qui travaillaient là-dessus se devaient d'étudier, c'était de ne pas se contenter d'un seul exemple, l'exemple de la limite Crétacé-Tertiaire, mais d'aller voir les autres grandes extinctions en masse que vous voyez ici marquées par des flèches rouges, et en particulier les extinctions qui marquent la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire, et également l'extinction tout à fait significative, mais qui apparaît plus petite ici, entre le Trias et le Jurassique, deux étages de l'ère secondaire. Et donc il y a eu une concentration de travaux considérables sur ces événements particuliers, et l'idée évidemment a été pour les tenants de l'hypothèse de l'impact de chercher si on retrouvait des traces de cratères d'impact ayant le bon âge ailleurs sur Terre, et pour les tenants de l'hypothèse volcanique, de regarder s'il y avait d'autres trappes qui aient le bon âge, la bonne durée. Et vous avez ici une photographie déjà un tout petit peu ancienne qui vous montre la répartition des trappes de ces objets volcaniques exceptionnels à la surface du monde. Je viens de vous montrer l'exemple des trappes du Deccan en Inde. Ces objets qui font environ 1 million de kilomètres cubes de lave, on en retrouve en Sibérie, en Éthiopie, dans le sud de l'Afrique du Sud. Le Parana, les célèbres chutes de l'Iguassu, pour ceux d'entre vous qui les ont vues, coulent sur les trappes du Parana, les Caraïbes, le Groenland. Charles Darwin a certainement vu ces trappes particulières, puisque une grande partie de la géologie anglaise du 19e siècle s'est fondée, britannique pardon pour les Gallois et les Irlandais, s'est fondée sur l'observation dans les îles de Skye, Rum, Mull, et puis tout le long de la côte du Groenland sur un volcanisme tout à fait particulier. Il manque ici, parce que ma diapositive est trop ancienne, un volcanisme qui n'était pas connu quand je l'ai dessiné, qui occupe une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve jusqu'au Portugal, jusqu'en Guyane et aux États-Unis. Là encore, pour ceux d'entre vous qui êtes allé à New York, il y en a sûrement beaucoup, et qui avez passé le Washington Bridge au nord-ouest de Manhattan, vous vous trouvez face à un village du New Jersey qui s'appelle Palisades, les Palissades. Pourquoi ? Parce que devant vous, vous avez une falaise d'orgues basaltiques qui sont des orgues basaltiques de cette grande province qu'on appelle aujourd'hui la province magmatique centre-atlantique. Et donc le travail a été de refaire sur tous ces trappes le travail que nous avions fait, nous et d'autres équipes, sur les trappes du Deccan, et le résultat que je reprends tous les 5 ans pour voir comment il évolue ne cesse de s'améliorer. Il y a une corrélation pratiquement parfaite entre les âges de chacun de ces trappes basaltiques et les âges des principaux événements, des grandes extinctions en masse ou d'extinctions moins grandes ou d'événements qu'on appelle les événements d'anoxie, Ocean Anoxia Events, et en particulier la corrélation est tout à fait évidente pour les 4 plus grandes extinctions, la fin du Crétacé, la fin du Trias, la fin du Permien, et même un élément de prédiction. Les paléontologues ont remarqué qu'à la fin de l'ère primaire, il y avait non pas une extinction longue de 10 millions d'années comme on l'avait cru jusqu'à quelques temps, mais en raffinant leur enregistrement, ils se sont aperçus qu'il y avait une séquence de 2 extinctions brusques. On a trouvé les 2 trappes correspondant aux 2 extinctions brusques, la Sibérie pour la fin du Permien et un petit trappe très abîmé par la collision de l'Inde et de l'Asie en Chine du Sud qui s'appelle les trappes d'Emeishan. On a même prédit qu'ils auraient un âge qui collait 258 millions d'années. Cet âge a été mesuré après, donc c'est une forme de post-diction. Et je n'insiste pas sur les extinctions moins grandes et les événements d'anoxie qui sont très importants, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de grande extinction massive sans trappe. Il y a des trappes qui donnent des extinctions moins fortes. Il y a un seul trappe qui ne semble pas correspondre à une extinction, c'est les trappes de Columbia dans l'ouest des États-Unis. Ils sont 10 fois plus petits que tous les autres. Manifestement, c'est un objet à part de la distribution. Mais surtout, et ce qui est important, c'est que je pense qu'il est démontré qu'il y a un seul moment, un cratère d'impact important, c'est au moment de l'extinction de la fin du Crétacé. Aucune des autres extinctions à ce jour n'a de cratère démontré. Il y a eu des tas d'efforts depuis 30 ans, vous l'imaginez, pour les dater. Il y a eu des papiers 10 ans qu'on en avait trouvé. Dans presque tous les cas, il a été possible de montrer que ce n'était pas solide et des papiers sont venus annuler ces découvertes. Donc je pense pouvoir vous affirmer qu'il n'y a aucun autre cas de coïncidence, extinction, impact d'astéroïdes au cours du Phanérozoïque que celui qui marque à Chicxulub au Mexique la fin du Crétacé. Le problème, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, qui est à peu près l'état de nos travaux à la fin des années 80-90, c'était avec une résolution temporelle du million d'années qui ne nous suffit pas, et qui ne suffit pas en particulier pour distinguer le scénario écologique d'un impact de météorites et celui d'un million d'années de volcanisme. Et donc nous avons eu l'idée de retourner au Deccan dans les dernières années. Et je vous expose ici quelques-uns des résultats que nous avons obtenus dans le cadre de la thèse d'une étudiante, Anne-Lise Chenet, et ce sont des résultats qui me paraissent très intéressants. L'idée que j'ai eue était tout simplement d'utiliser, puisque je suis magnéticien et que je mesure la mémoire fossile magnétique dans les laves, d'utiliser le fait que le champ magnétique ne cesse de bouger dans le temps. L'enregistrement que vous voyez là, c'est la projection sur un morceau de la sphère de la direction du champ magnétique dans cette pièce depuis 3000 ans, si cette pièce avait existé depuis 3000 ans. Vous lisez sur cet axe-là la déclinaison, l'angle que fait l'aiguille magnétique de la boussole avec le nord géographique qui est à 0, 20 degrés à l'ouest, 20 degrés à l'est. Et ici, vous avez le plongement sous la verticale, sous l'horizontale, ce qu'on appelle l'inclinaison. Aujourd'hui, dans cette pièce, le champ est ici. Son inclinaison est de 64 degrés, sa déclinaison est presque nulle. Nous fêterons bientôt le passage à Paris de la déclinaison par zéro, qui ne s'est pas produit depuis l'an 700. On aura une nuit de la déclinaison nulle, à laquelle j'espère que tout le monde sera associé. On fera une grande fête. Et vous voyez ici, au cours des siècles, la direction du champ magnétique variait jusqu'en l'an moins 950. Vous voyez que la variation, la déclinaison de la boussole, sous Napoléon, c'était 20 degrés à l'ouest, mais vers 700 avant Jésus-Christ, c'était plus de 20 degrés vers l'est. Donc vous voyez que la direction de la boussole, qui est censée indiquer le nord, elle varie de plus de 40 degrés. Et la vitesse à laquelle elle va est rapide, environ 3 degrés par siècle en écart quadratique moyen, en valeur quadratique moyenne. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser cette horloge et de regarder dans les laves si on voyait changer la direction du champ magnétique plus ou moins vite par rapport à ce chronomètre. Et donc, revenant le long de la falaise du Mas Baléchoir que vous voyez ici un peu dans la brume, nous avons remesuré les directions magnétiques. Vous avez à droite la projection sur la sphère inférieure, ça se lit de la même façon. Les directs, par exemple, si je prends un point au hasard, ce point a une déclinaison qui est ceci par rapport au nord et une inclinaison, ça c'est l'horizontale, on est donc 20 degrés sous l'horizontale, ici on est vertical, ici on est en polarité inverse. eh bien, la coulée la plus haute a sa direction normale. Mais toute la série de coulées qui couvrent 180 mètres en dessous a des directions qui sont complètement les unes sur les autres si on tient compte de nos cercles d'incertitude. Le résultat pour nous, c'est que cette énorme pile de lave n'a pas eu le temps d'enregistrer la variation séculaire du champ magnétique malgré sa rapidité. Et donc, la durée totale de cette pile de lave est sans doute inférieure à 100 ans et même peut-être à 10 ans si on prenait les valeurs les plus rapides actuelles du champ magnétique terrestre. Et donc, cet exercice, on l'a fait un peu partout et on a réussi à distinguer comme ça dans les trappes du Deccan des paquets de coulées de près de 200 mètres d'épaisseur que nous avons réussi à suivre dans un cas sur plus de 150 km de long et dans un autre cas sur 800 km de long. En effet, nous avons la chance que l'érosion ait préservé un petit morceau de trappe de lave dans une région qui s'appelle Rajamundry, à 800 km d'une zone dont on a pu démontrer par la chimie quelle était la zone d'émission. La composition précise de deux coulées ne peut être corrélée qu'avec deux coulées particulières qui sont émises à partir de fissures qui sont ici. Ce sont donc les plus grandes coulées du monde. 800 km de long, 200 km de large, 200 mètres d'épaisseur. Vous arrivez à des coulées qui ont pu avoir 10 000 km3 de volume et se mettre en place sur la Terre en quelques dizaines d'années. On n'est plus sur des objets du million d'années, on est passé à la même échelle de temps et d'intensité, et peut-être pire que celle de l'impact de la météorite. Encore une fois, la paléontologie vient à notre secours. À Rajamundry, dans cette région lointaine, on a la chance qu'à cet endroit, les trappes n'aient pas été émises sur une surface continentale, mais aient été émis sous l'eau marine. Et l'avantage, c'est que les fossiles marins sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus faciles à dater, et que les collègues paléontologues, dont Gerta Keller, ont pu nous dire précisément où étaient, et bon, ce diagramme est un peu compliqué, mais les deux barres roses que j'indique ici, ce sont ces deux coulées volcaniques dont on connaît la polarité magnétique, inverse en bas, et le passage d'inverse à normal en haut, et donc on connaît la corrélation par rapport aux micro fossiles qu'identifient les paléontologues, et là ils sont capables d'identifier de façon certaine la limite Crétacé-Tertiaire, la limite de l'iridium, de l'impact, et on s'aperçoit qu'elle est juste au sommet de la première coulée principale. Quand on met ensemble toutes ces informations, nous sommes capables d'offrir un scénario extraordinairement plus précis qu'autrefois. Et pour des raisons, je n'ai pas pu vous montrer tous nos résultats. Nous avons démontré l'existence d'une première phase volcanique intense à 67,5 millions d'années qui a exactement enregistré cette inversion du champ magnétique terrestre. Donc on la suit de façon photographique. Puis pendant 2 millions d'années, il ne se passe plus rien. Il y a en fait sous la croûte une énorme bulle de magma qui est en train de se préparer, qui a commencé à entrer en éruption, mais dont la phase paroxysmale ne se produit entièrement que dans une brève période de moins de 50 000 ans à l'intérieur de la partie inverse, dont on sait qu'elle referme en rouge la limite géologique, paléontologique, Crétacé-Tertiaire. Et puis après 100 ou 200 000 ans, une troisième phase, et vous avez leurs intensités respectives, se met en place, qui enregistre juste l'inversion C29R, C29N, donc on sait très bien la caler, et qui explique pourquoi l'extinction qui a été si massive et si brutale, et où l'impact de météorite est tombé en plus au moment où ça allait déjà mal, a mis tant de temps à retrouver sa diversité. C'est que 200 000 ans après, alors que la vie redémarrait, on a repris dans la figure un coup violent qui explique qu'il ait fallu plus de 400 000 ans à cette extinction gigantesque pour reprendre et redémarrer vraiment la biodiversité du tertiaire. Donc vous voyez, certes l'échelle de temps, elle est bien à l'échelle des millions d'années, mais elle est groupée, et en fait on peut montrer de façon quasiment fractale, en ce que nous appelons des mégapulses, des pulses et des sous-pulses, c'est-à-dire pratiquement des paquets de coulées emboîtées, dont certaines, comme je l'ai indiqué, sont absolument gigantesques. Alors ce qu'il nous manquait, et nous l'avons fait au cours des dernières années, c'était de trouver le moteur. Darwin a trouvé le moteur de la sélection naturelle. Nous, ce qu'on nous disait, c'est vous avez une hypothèse, une corrélation, elle est intéressante, chaque année elle se précise, mais vous n'avez pas vraiment le mécanisme. Et comment pouvez-vous comparer l'effet d'un impact d'une météorite de 10 km de large qui fait un cratère de 100 à 150 km de diamètre, le plus gros qu'on connaisse sur Terre actuellement, et vos petites éruptions? Nous, on sait bien que les éruptions basaltiques, c'est calme, c'est gentil, ça ne fait pas de problème. Alors, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, c'est ça qu'on a réussi à lever au cours des 3-4 dernières années. Cette diapo, simplement pour vous rappeler, l'histoire des relations entre le volcanisme et le climat remonte à une grande éruption qui s'est produite en Islande en 1783-84, la fissure du Laki. Déjà à l'époque, en temps réel, Benjamin Franklin, on le sait depuis longtemps, Mourgue de Montredon, je l'ai découvert depuis que j'ai eu le plaisir d'être associé à cette académie et que j'ai retrouvé son article de 1783 au premier étage de la bibliothèque qui est au bout du couloir quand vous sortez. Dans dans un livre pas facile à trouver, eh bien cet homme de sciences naturelles de 1783, trois mois après le début de l'éruption, a publié un magnifique article dans lequel il a compris beaucoup de choses. Depuis, on a été capable de reconstituer beaucoup plus finement cette éruption. Vous avez ici une carte de l'Islande, en noir foncé, la localisation et la cartographie de la coulée et la fissure qu'il a émise. La vision que donne aujourd'hui cette fissure avec tous les petits cônes fendus qui la jalonnent. Ce sont 15 km de lave basaltique qui ont été émis en 10 éruptions paroxysmales sur un peu moins d'un an. Et des géologues britanniques, Steve Self et islandais, ils ont été capables, par une analyse très soigneuse des archives et de la géologie islandaise, de reconstituer jour par jour la séquence des éruptions et de montrer que ces éruptions volcaniques basaltiques étaient précédées pendant 10 fois d'une éruption paroxysmale qui envoyait la totalité de ses produits, gaz et particules, jusqu'à la stratosphère. Et envoyer ces produits dans la stratosphère, c'est la condition sine qua non pour une éruption volcanique, pour avoir une conséquence sur le climat qui soit pas seulement locale, ce qui est le cas quand les gaz se contentent d'aller dans la troposphère, mais qui est globale à partir du moment où elle atteint la stratosphère, ou en tout cas hémisphérique, à défaut d'être globale. Beaucoup d'études ont été menées sur cette éruption du Laki. Très récemment, j'ai fait la connaissance d'un scientifique britannique, John Grattan, qui a étudié les conséquences en termes d'enterrement et de mortalité de l'éruption, en Angleterre d'abord, en montrant qu'il y avait un pic de mortalité exceptionnel l'année 1783. Puis il a recommencé l'étude avec des collaborateurs en France, cette fois-ci mois par mois, sur de nombreuses paroisses. Il y en a beaucoup plus que ce que vous voyez ici. 2 mois après le début de l'éruption, dans toute la France, vous avez un pic de mortalité qui dure 2 mois. Ce sont plus de 100 000 morts supplémentaires qu'a causé cette éruption lors de l'année 1783-84. Nous disposons aujourd'hui d'un modèle parfaitement complet du rôle que joue le soufre dans les éruptions volcaniques pour absorber le rayonnement solaire dans la stratosphère, le réduire dans la troposphère et causer donc ce qu'on appelle parfois un hiver volcanique. On en a eu des exemples de petite amplitude avec l'éruption du El Chichon et l'éruption du Pinatubo au cours des 20 dernières années. Pour vous dire que nous avons su reproduire numériquement la propagation des gaz à toutes les altitudes et sur la Terre entière, et que nous savons expliquer qu'en effet, le soufre a été envoyé en quantité mortelle sur pratiquement un hémisphère entier pendant parfois des périodes assez longues pour causer les troubles que vous avez vus. Et d'ailleurs, on a maintenant des enregistrements en Chine, en Libye, en Amérique. Jefferson a noté ce brouillard en particulier qui a infesté, comme jamais plus ça ne s'est produit depuis sur Terre, depuis 1783, la région. 10 000 km³ en moins de 100 ans, ça représente 100 km³ par an pendant 10 ans. Et donc, vous voyez que cette éruption du Laki que je viens de vous montrer, qui est une minuscule brique élémentaire par rapport à une coulée, vous voyez ici une coulée du Deccan envoie dans l'atmosphère 10 à 150 gigatonnes de soufre et le trap du Deccan tout entier 10 000. L'impact de Chicxulub, c'est 50 à 500, c'est tout à fait significatif, mais ce qu'on découvre, c'est que l'impact, c'est comme une très grosse coulée, mais qu'une très grosse coulée, ça ne suffit pas, un impact, ça ne suffit pas. Si Chicxulub était tombé sur Terre en dehors de la période d'éruption des trappes du Deccan, j'ai maintenant la certitude qu'il n'aurait causé aucune extinction en masse. D'ailleurs, un trap entier n'y arrive pas toujours, il faut en plus une séquence temporelle et volumique particulière pour que le trap puisse faire une extinction. Et le résultat a été pour nous de proposer un modèle de l'évolution des espèces où vous retrouvez les données dues à Michael Benton, où l'idée de Benton était que l'évolution de la diversité sur Terre était en quelque sorte exponentielle. C'est à mon avis une erreur profonde et nous avons proposé qu'au contraire, cette évolution est logistique, qu'on y trouve des taux intrinsèques de variation de la biodiversité et les potentialités du milieu en niche écologique et que les instants des grandes extinctions sont des instants essentiels qui font repartir cette équation différentielle à partir de conditions aux limites différentes de la période précédente où la diversité avait la même mesure et qu'en grande partie nous portons aujourd'hui dans la biodiversité la trace de ces extinctions. Comme je suis géophysicien, je voulais vous parler de l'intérieur de la Terre, je ne le ferai pas et je terminerai sur cette diapositive que je vous laisse lire en vous remerciant.
L'homme est évidemment un être vivant. Mais c'est aussi dans une classification à la fois chronologiquement ascendante et gigogne, un eucaryote, un métazoaire, un chordé, un vertébré, un iatostome, un sarcoptérygien, un tétrapode, un amniote, un synapside, un mammifère, un primate. Et parmi les primates, un aplorinien, un similiforme, un catarinien, un hominoïdé et un hominidé. Ça peut remplir la conversation, hein. Nous sommes tous ça. Or, dans la majorité des classifications, les hominidés englobent aussi bien les paninés, qui sont les pré-chimpanzés et les chimpanzés, que les homininés, qui comprennent les pré-humains, ça c'est un terme qui n'est pas très orthodoxe, mais qui est commode, et les humains. Ce qui veut évidemment dire que paninés et homininés partagent un ancêtre commun. Comme tous les primates sont d'origine tropicale, et les paninés africains, il y avait quelque chance que cet ancêtre commun, et au moins ses premiers descendants, aient été tropicaux et africains. Et ce n'est en effet que l'Afrique tropicale qui a répondu à cette recherche comme attendu. Comme en outre, les distances morphologiques, anatomiques, physiologiques, éthologiques, génétiques, moléculaires, entre ses cousins paninés et nous-mêmes nous autorisaient à situer à peu près ce dernier ancêtre commun au Miocène supérieur, vers une petite dizaine de millions d'années, nous avions le lieu et la date de naissance de notre sous-famille, l'Afrique tropicale, il y a 10 millions d'années. Eh bien, pour le moment, on dispose de 3 candidats de cette origine et de cet âge pour cette ancestralité. Chororapithecus abyssinicus d'Éthiopie, d'une dizaine de millions d'années, peut-être un petit peu plus. Nakalipithecus nakayamai du Kenya, d'une dizaine de millions d'années, peut-être un petit peu moins. Et Samburupithecus kiptalami du Kenya, 9 600 000 ans, d'environ 9 500 000 d'années, dont un des pères, Martin Pickford, est ici. Ces fossiles nous donnent une idée de l'allure de l'ancêtre commun, mais on ne les connaît pas assez, loin de là, pour les situer plutôt avant, plutôt après ou plutôt à côté. Plutôt avant l'embranchement paniné-homininé, plutôt après, déjà pré-chimpanzé ou déjà pré-humain, ou plutôt à côté. Il y a des chances d'ailleurs statistiquement qu'il soit à côté et qu'on n'ait pas encore ce fichu ancêtre commun. On n'est pas prêt d'arrêter la course à cette recherche. Ce que l'on sait, c'est que c'est dans ce biotope forestier et tropical et à cette époque que se fait la séparation pour des raisons que j'imagine environnementales. Toujours est-il que voilà ainsi lancée l'aventure des homininés, notre route à nous et rien qu'à nous. Cette route de 10 millions d'années donc est jalonnée de genres et d'espèces, d'abord préhumains, comme je vous l'ai dit, de 10 millions d'années à environ 1 million d'années, et d'humains, d'environ 3 millions d'années, aujourd'hui et demain. Ce qui veut dire que les derniers des préhumains sont contemporains des premiers des humains. Quelques mots de ces préhumains avant d'envisager l'homme, avant d'envisager les humains. Les préhumains sont nombreux. Ils se sont différenciés en une sorte de bouquet de 7 genres et 14 espèces. Ils ont été découverts du sud au nord, en Afrique du Sud, au Malawi, en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie, au Tchad. 7 genres et 14 espèces qui partagent une origine tropicale, sans aucune exception, une origine africaine, sans aucune exception, une station debout permanente, autant que l'on sache en tout cas, une locomotion d'abord bipède et arboricole, démontrée par Aurorin Tuganensis, Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis, c'est-à-dire que même Lucie, qui n'a que 3 200 000 ans, est à la fois bipède et arboricole. C'est d'ailleurs la première qui a révélé cette double locomotion. Et cette double locomotion qui tend vers une locomotion bipède exclusive, qui, comme vous le savez, est la nôtre. On ne grimpe plus, enfin moi en tout cas. Un encéphale en expansion, je dirais en douce expansion, plus grande capacité et plus grande complexité. Plus grande complexité qui se lie dans les circonvolutions, dans les moulages endocraniens et dans l'irrigation. Une face en réduction, en douce réduction. Certains Australopithecus et Kenyanthropus, par exemple, Kenyanthropus d'ailleurs qui s'appelle Platyops, ça dit bien ce que ça veut dire, et des dents qui sont soit en réduction, soit en expansion, c'est-à-dire que, enfin expansion c'est pas vraiment le mot, mais ça veut dire qu'il y a là deux tendances, une tendance à la réduction des dents, ne serait-ce que des dents jugales, comme chez Aurorin, Kenyanthropus, et ensuite chez l'homme, et au contraire des dents en expansion de taille, en accroissement de taille chez certains australopithèques et chez les fameux paranthropes. Donc un monde de plus en plus riche et pas du tout un monde compliqué. Moi je m'élève avec rage contre ces journaux qui, à chaque fois qu'on trouve un nouveau préhumain, titre que tout est bouleversé et que les paléontologues ont à revoir leur copie. C'est très agaçant parce que c'est tout à fait l'inverse. Quand on connaît la paléontologie et quand on connaît les autres ordres de mammifères, on sait très bien qu'à cette époque, il y a une grande diversité des espèces et qui est due à une multiplication des bassins. Autrement dit, il y a une spéciation qui existe aussi bien chez les cochons que chez les éléphants, et pourquoi pas chez les préhumains. Donc ne vous laissez pas faire. Évidemment, ce sont souvent les titres, ce ne sont pas les auteurs des articles, parce qu'en général, les articles sont très bons, mais évidemment, les titres ne sont pas forcément à la disposition de ces auteurs des articles, et les titres, tout est bouleversé, y compris dans les revues dites scientifiques ou vraiment scientifiques. Quant aux humains, cette fois, après les préhumains, eh bien, ils apparaissent alentour de 3 millions d'années, un petit peu moins, à partir naturellement d'un ancêtre préhumain que l'on n'a pas encore véritablement identifié. C'est toujours la même chose, hein. L'ancêtre commun, on ne l'a pas, et l'ancêtre de l'homme, on ne l'a pas non plus à coup sûr. Alors, on avait envisagé Aurorin Tuganensis, que Brigitte Senu et Martin Pickford ont décrit. On avait envisagé Kenyanthropus platyops, parce qu'il a la face un petit peu plate. Australopithecus Barrel-Ghazali du Tchad, parce qu'il ressemble beaucoup à Kenyanthropus platyops. Et puis, on avait envisagé aussi Australopithecus anamensis, parce qu'il est bipède exclusif des 4 millions d'années. Enfin, toujours est-il qu'il y a des candidats, mais pour le moment, il n'y a pas de lauréat. Donc, où et quand ? Eh bien, ça veut dire, en tout cas, que quel que soit cet ancêtre, l'homme a, lui aussi, l'Afrique tropicale pour berceau et un peu moins de 3 millions d'années pour âge géologique. Et maintenant, comment et pourquoi ? Combien de fois on entend, et je suis persuadé que vous l'avez entendu aussi, comment on peut le dire, pourquoi on ne peut pas ? Ben si, on peut dire comment et pourquoi. C'est un peu prétentieux, mais c'est ce que je vous propose. Alors j'ai la réponse. Dans le sud de l'Éthiopie, au bord du fleuve Omo, où j'ai travaillé 10 ans, de 67 à 77, nous avons eu, grâce à une séquence stratigraphique extraordinaire, extraordinaire pour du sédiment, pour des trappes, ça ne l'est pas, mais pour des sédiments, c'est pas mal, 1200 mètres de puissance. Nous avons eu donc tous les niveaux entre 3 500 000 ans et 1 million d'années. On ne peut jamais dire que c'est continu, mais ça en avait l'air. Bien daté par le paléomagnétisme, par les TEFRA, par les datations absolues des couches des éléments volcaniques, et par la biochronologie. Ça fait quand même 3 datations qui se recoupent. Et tous les fossiles, animaux, végétaux et humains des époques correspondantes. Alors à cet égard, je veux saluer ici la mémoire de Camille Arambourg, avec qui je suis parti en 67. Et qui est venu 3 ans avec nous sur le terrain, qui y était allé dès les années 30, 1932-33, je crois. Camille Rambourg, qui était membre de cette académie, et Francis Clark Harwell, qui y était allé en 59, et qui est revenu avec nous pendant les 10 ans de séjour dont je vous ai parlé, et Francis Clark Harwell, que j'avais fait rentrer dans cette académie, qui était membre étranger, et qui était de l'université de Berkeley, comme le collègue Padian. Et je salue aussi dans la foulée, parce que les âges sont un peu anciens, 67-77, la reprise des travaux à l'OMO par un jeune et brillant paléontologue qui s'appelle Jean-Renaud Boisserie, c'est-à-dire qu'il y a une succession. Donc, si c'est nous qui avons eu, à cette époque, les conditions pour parler de comment et pourquoi l'homme était apparu, c'est tout simplement parce qu'à cette époque-là, les niveaux exploités étaient ceux d'Olduvai en Tanzanie, et ces niveaux-là étaient trop jeunes, moins de 2 millions d'années. Il y avait les niveaux de Hadar en Afar, où je me trouvais d'ailleurs moi-même, et cela était trop vieux, plus de 3 millions d'années. Et il y avait ceux de l'est du lac Turkana, où fouillait Richard Leakey, et manque de chance, ceux de l'est Turkana avaient justement une lacune stratigraphique, précisément à l'âge de l'émergence de l'homme entre 3 et 2 millions d'années. Avouez que c'est quand même désagréable pour ceux qui y fouillaient. Depuis, on a trouvé l'équivalent à l'ouest du lac Turkana, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Quant à l'Afrique du Sud, elle n'avait et n'a toujours pas ni de bonnes séquences stratigraphiques, ni de bonnes datations. Donc, que voit-on à l'Homo entre 3 et 2 millions d'années? Eh bien, l'essentiel, un climat qui change. Simplement un changement climatique. Mais un climat qui va de plus humide à plus sec, en gros. Je vais commencer par la flore, bien que ce soit la paléontologie des vertébrés qui ait mis le doigt sur cette histoire, mais la flore est extrêmement significative. Si vous faites le rapport du nombre de pollens d'arbres sur le nombre de pollens d'herbes, donc une sorte d'index, eh bien, ça donne 0,4 à 3 millions d'années, 0,01 à 2 millions d'années. Je vais vous donner quelques chiffres de pourcentage de pollen d'un certain nombre de plantes caractéristiques. Je prendrai d'abord une plante qui s'appelle Celtis et qui est caractéristique de l'humidité. Eh bien, à 3 millions d'années, je prenais toujours 3 et 2 millions d'années comme des chiffres repères, c'est quelquefois un petit peu différent, mais ça situe les choses. À 3 millions d'années, Celtis est représenté par 45% des pollens. À 2 millions d'années, zéro. Oléa, plante humide, à 3 millions d'années, 16%. À 2 millions d'années, 6%. Typha, une autre plante humide, à 3 millions d'années, 23,1%. À 2 millions d'années, 1,4%. Macaranga, une autre plante humide, à 3 millions d'années, 4%. À 2 millions d'années, 0. Et l'inverse, Myrica, qui est une plante sèche, à 3 millions d'années, 0, à 2 millions d'années, 20%. Enfin, c'est une démonstration qui est déjà intéressante. Maintenant, la faune, bien sûr, qui s'efforce de s'adapter à ce changement, avec plus ou moins de succès, en voici quelques exemples. Premièrement, les proboscidiens, les éléphants. L'évolution du genre éléphas est par exemple tout à fait spectaculaire. Cette évolution peut être suivie et mesurée grâce à l'augmentation de la hauteur des molaires relativement à leur largeur, ce qu'on appelle l'hypsodontie, l'augmentation du nombre de lames dentaires de ces molaires et la détermination de l'épaisseur de leur ruban d'émail, tout simplement parce qu'il faut plus d'usure quand on mange de l'herbe que quand on mange des feuilles. Deuxièmement, les équidés, les chevaux. Leur répartition d'abord est significative. Les hipparions, autrement dit les pré-chevaux, sont partout, alors que le genre Equus, qui est le vrai cheval, beaucoup plus adapté à une nourriture plus dure et plus adapté à courir dans des paysages découverts, n'apparaît qu'à partir de 2 millions d'années. On s'en serait douté. Deuxième exemple. Les hipparions évoluent en outre vers une augmentation, toujours la même chose, de la hauteur, de la couronne, de leurs dents. Et notamment vers le développement d'une sorte d'extra-tubercule, de petit tubercule, qui se trouve sur les dents jugales inférieures, qu'on appelle l'ectostylide. Eh bien, c'est extraordinaire, ce petit tubercule additif, quand on en mesure la hauteur et la longueur mésiodistale, on a là aussi un indice que l'on appelle ectostylidique, et bien cet indice augmente proportionnellement au développement de la sécheresse et au développement de l'herbe. Troisième exemple, les dents jugales supérieures d'hyparion ont un émail plissé. Or, ce plissement est plus important quand le climat est humide. Alors, même chose, 3 millions d'années, 20 à 24 plis par dent, 2 millions d'années, 6 à 17 plis seulement. Troisièmement, les suidés, les cochons, montrent une transformation impressionnante, la même, parce qu'elle apparaît indépendamment et parallèlement dans quatre phyla. Les dents jugales sont plus longues, notamment la dernière molaire, plus hypsodontes, même chose, et chargées de beaucoup plus de tubercules. C'est la lignée de Colpocerus, de Nyanzacerus, de Notocerus, de Metridiocerus. Avouez que c'est extraordinaire d'avoir quatre lignées bien indépendantes qui développent exactement le même type d'adaptation. Et l'accélération est aussi vers 2 millions d'années. Autre exemple pris chez les suidés, l'émergence de deux genres extrêmement hypsodontes, comme l'apparition du genre Equus chez les chevaux. C'est le phacochère, ressemblant au phacochère actuel, et le stylochère. Je ne sais pas si vous avez vu des dents de phacochère, mais ce sont des dents très, très, très hautes. Quatrièmement, les rhinocéros. L'évolution encore vers une hypsodontie, je m'excuse, c'est répétitif, mais une démonstration en a parfois besoin. Hypsodontie croissante, donc, chez les deux, aussi bien les rhinocéros noirs, Diceros bicornis, que chez les rhinocéros blancs, Ceratotherium précox et simum. Et approche quantitative, le Diceros bicornis, qui est un rhinocéros de savane boisée, de forêt claire, est plus abondant dans les niveaux anciens, 3 millions d'années, et le Ceratotherium simum, le rhinocéros blanc, est plus fréquent dans les prairies et les savanes claires, plus abondant dans les niveaux supérieurs. Bovidés, cinquièmement. Là, l'approche a été plutôt écologique, car on a disposé de 22 genres et de 37 espèces de bovidés, donc on pouvait jouer sur la quantification en même temps que sur les associations. Niveau inférieur, forêt ouverte, zone couverte, des tragélaphes, des bovini, des néotragini. Niveau supérieur, zone ouverte, sans beaucoup d'eau, les ancelaphini et les antilopini. Alors, je précise, en ce qui concerne les chiffres, les tragélaphini, qui sont donc des antilopes de territoires plutôt couverts n'ont pas complètement disparu dans les niveaux supérieurs, de même que les Alcelaphini qui sont présents dans les territoires découverts n'ont pas quitté les niveaux inférieurs, mais les chiffres sont éloquents. À 3 millions d'années, les Tragelaphes, 33%, les Alcelaphes, 9%. À 2 millions d'années, les Tragelaphes, 3%, les Alcelaphes, 29%. C'est presque une inversion parfaite, 33-9, 3-29. Les petits singes, encore la méthode écologique, les Theropithecus de la savane boisée sont présents à 3 millions d'années, les Theropithecus de la savane ouverte sont ceux de 2 millions d'années. Quand on a appliqué aussi une méthode quantitative qui vaut ce qu'elle vaut, mais il faut dire que les niveaux de l'Homo sont tellement riches en fossiles qu'on pouvait se le permettre. Songez que dans une collecte normale, au kilomètre carré de prospection, enfin quand même, il faut être audacieux pour faire des mesures sur des ramassages, eh bien au kilomètre carré de prospection, à 3 millions d'années, on avait 367 spécimens de petits singes, à 2 millions d'années, 39. Donc un facteur 10. Micromammifères, même chose. Alors j'en arrive, parce qu'il est temps aux hominidés, il est temps de faire naître l'homme. À 3 millions d'années, on a donc de la forêt, de la savane boisée, de la brousse, et il y a à ce moment-là plusieurs préhumains, Australopithecus afarensis, Australopithecus anamensis et Kenyanthropus. Et à 2 millions d'années, en fait, à partir de 2 millions et demi au moins, deux réponses des hominidés à ce changement climatique. Première réponse, l'Australopithèque dit robuste, avec une adaptation, disons une dissuasion physique, il a un corps plus massif et un nouvel équipement masticateur pour mâcher des végétaux fibreux, des végétaux durs et des fruits également. Et deuxième réponse, l'homme, je dirais d'immense dissuasion intellectuelle, mais c'est évidemment un raccourci bien excessif, mais en tout cas avec un cerveau plus gros, plus compliqué, plus plissé, mieux irrigué, et un nouvel équipement masticateur pour une alimentation omnivore. Voici donc l'homme né il y a un peu moins de 3 millions d'années en Afrique tropicale. Pourquoi ? À cause de la nécessité de s'adapter comme ses autres amis à un changement climatique subi, exactement comme les autres mammifères de son écosystème, vous venez de l'entendre, et comment, en retenant par sélection naturelle darwinienne, des dents pour un régime opportuniste élargi et un cerveau plus performant. À stress climatique, réponse bricolée, et ma foi, pas si mauvaise que ça, puisque nous sommes toujours là et en pleine forme. J'ai appelé cet événement l'événement de l'Homo, avec une méchante astuce, l'Homo L'H entre parenthèses OMO, puisque c'est la découverte de l'émergence de l'homme sur les bords de la rivière Homo. Avouez que c'est quand même extraordinaire, je ne pourrais pas rater ça. Pour la première fois, un être vivant taille la pierre, tape sur un caillou avec un autre de manière volontaire et délibérée pour obtenir une forme nouvelle, désirée, correspondant à la fonction à laquelle il la destine. On appelait cela conscience. Il semble que désormais il faille changer de nom parce qu'on a trouvé la conscience ailleurs, mais ce n'est pas important. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant puisque cette émergence est plus quantitative que qualitative. Mais en l'occurrence, parfois, plus devient différent. J'aime bien l'expression anglaise que j'utilise souvent, « more is different ». Et en l'occurrence, c'est « more is sometimes different ». Et c'est le cas, puisqu'on a beau dire que l'homme est un animal et c'est vrai, l'homme est un primate et c'est vrai, qu'il partage sa conscience avec d'autres animaux et c'est vrai, il n'en est pas moins un drôle de petit mammifère qui a développé un environnement culturel comme aucun autre. et paradoxalement qui a développé avec cet environnement culturel deux caractéristiques qui s'opposent, une certaine liberté et une certaine responsabilité. Liberté et responsabilité qui pourraient se traduire aujourd'hui peut-être par arrogance, l'arrogance dans les défis technologiques, et culpabilité, ça ne vous a pas échappé, dans les coups de frein qu'il essaye de se donner. Et finalement, arrogance et culpabilité, c'est la même chose que liberté et responsabilité. Donc soyons les deux, arrogant et un peu coupable, c'est inhérent à notre nature, avant de devenir demain, sûrement, peut-être après-demain, une autre espèce, un autre genre sur cette planète ou sur d'autres planètes. Merci beaucoup.
Laissez-moi revenir une petite minute sur la théorie de l'évolution, pour en parler très simplement, très naïvement, vous dire que cette théorie en fait est basée sur deux grands piliers, comme nous l'avons entendu ce matin. Il y a d'une part la variation, c'est la question du comment. Les organismes sont soumis à des variations aléatoires. Et puis l'autre pilier, c'est le pilier de la sélection, c'est la question du pourquoi finalement. Les variations les plus adaptées au milieu seront conservées. Bien sûr, le poids de la théorie, ne serait-ce que par son nom, la façon dont on l'appelle, théorie de la sélection naturelle, repose presque entièrement sur la sélection, puisque la variation est aléatoire, donc infinie. On assiste donc à une construction lente, graduelle, entendu parler ce matin de la signification de ce mot graduel, chaque partie d'un organisme étant progressivement adaptée aux conditions du milieu. D'où la question pratiquement unique du pourquoi aujourd'hui chez les biologistes de l'évolution. Darwin, bien sûr, n'a pas les outils conceptuels pour répondre à la première question, à cette question de la variation. D'où la référence à ce deep time, à ce temps profond, cette notion de temps évolutif qui correspond en gros à ces aires géologiques dont nous avons entendu parler, qui est une notion pour un biologiste extraordinairement diffuse. En fait, sa définition, c'est le temps nécessaire au hasard pour s'exprimer pleinement. Le deep time, c'est le temps permettant à tout ce qui pourrait arriver d'arriver finalement. Ce n'est pas une notion extrêmement utile en biologie. Darwin cherche une explication, bien sûr, à la variation des espèces, et on en trouve des traces dans plusieurs passages de l'origine. Je pense que c'est au chapitre 13, en fait, que se trouvent les citations les plus intéressantes. Il dit « L'embryologie acquiert un grand intérêt si nous considérons l'embryon comme un portrait plus ou moins effacé de l'ancêtre commun, l'état de larve ou à l'état d'adulte. » Cette citation est reprise quelques pages plus loin, où il dit « Partant du principe de variations mineures successives, nous pouvons comprendre les grands principes directeurs de l'embryologie, c'est-à-dire la ressemblance des parties homologues d'un embryon qui, lorsqu'elles seront développées, différeront grandement les unes des autres. » On peut penser que Darwin faisait référence, par exemple, au développement des membres, qui est un système qu'il a beaucoup discuté, où effectivement, très tôt dans le développement, les membres antérieurs et les membres postérieurs sont pratiquement identiques, alors que plus tard, ils se développent d'une façon très différente. Pensez par exemple à l'aile de la chauve-souris et à ses pattes arrière. Ainsi que la ressemblance de classes de parties et d'organes homologues dans les espèces différentes. Là encore, peut-être une référence aux membres, où effectivement, si l'on regarde un membre d'aile d'oiseau ou de patte d'éléphant à un stade extrêmement précoce, ces membres seront rigoureusement identiques, mais bien sûr développant, exprimant leurs variations à un stade plus avancé. Donc Darwin voit dans le développement des animaux, en fait, une source de variation au travers de ces structures homologues. Il y voit l'origine des structures sujettes au gradualisme dans un contexte que l'on pourrait presque qualifier de récapitulation de type Haeckelienne, en fait. Darwin considère l'embryon comme un objet historique. Et il ne voit pas du tout dans le développement embryonnaire un obstacle à la variation. En fait, il voit comme une source d'explication à cette variation, mais pas du tout selon une approche mécaniste. Donc la notion de contrainte n'est que très très peu présente dans le contexte de la variation, dans les textes de Darwin. Je serais heureux si les spécialistes qui ont vraiment lu en détail toute l'œuvre de Darwin pourraient me contredire sur ce point précis. La situation actuelle, il est bien clair que l'évolution s'appuie sur le développement. Et je pense qu'il y a une sorte d'accord général sur ce point-là. Les mécanismes du développement étant en partie le matériel sur lequel l'évolution travaille. Ces deux disciplines sont donc très fortement liées, bien qu'intrinsèquement différentes l'une de l'autre, et c'est le point sur lequel j'aimerais revenir un peu plus tard. Cette relation entre le développement et l'évolution, on la trouve même dans la formulation des questions fondamentales en fait, que posent ces deux disciplines. C'est assez intéressant. La question fondamentale de l'embryologie est une question tripartite. En fait. Il s'agit de la multiplicité des cellules, la diversité de ces cellules et leur assemblage en une structure relativement cohérente qu'on appelle un organisme. Si l'on regarde la question fondamentale que pose l'évolution, on s'aperçoit que ces trois piliers fondamentaux sont les mêmes. C'est la multiplicité des espèces, leur diversité et leur assemblage dans une structure cohérente qu'on peut appeler un équilibre écologique. Donc ces deux questions à la fois de l'ontogenèse, donc de notre origine en tant qu'individu, et de la phylogenèse, donc de notre origine en tant que groupe d'individus, les deux questions fondamentales peuvent être formulées de façon relativement similaire. Ces deux disciplines, en fait, n'en font qu'une jusqu'à la fin du XIXe siècle, finalement. Même au niveau du nom de ces disciplines, on appelle indifféremment le développement, évolution, évolution, développement. Et si l'on lit des ouvrages de l'époque, on a parfois de la peine à savoir si les gens parlent de développement ou d'évolution. Une grande cassure se fait au début du XXe siècle, au travers de l'émergence de l'embryologie causale, et notamment des travaux de l'école allemande du sud de l'Allemagne, de Hans Spemann, qui, eux, vont sortir du contexte évolutif pour tomber dans un contexte mécaniste. Et cette divergence entre ces deux disciplines prendra pratiquement un siècle avant de se résoudre, notamment grâce à l'émergence de la génétique moléculaire du développement, qui va ramener toute cette population de mécanistes, de pensées mécanistes, dans un contexte de l'évolution. La raison en est relativement simple, finalement, car la compréhension d'un mécanisme de développement entraîne forcément la compréhension de ses variations. Et j'ai mis ici un exemple qui est un exemple assez parlant, qui est celui du développement des doigts, développement des mains, que si l'on comprend, et on commence à le comprendre relativement en détail, si l'on comprend comment ces doigts sont produits pendant notre développement personnel, nous sommes très près de comprendre comment ces doigts ont été produits pendant l'évolution des tétrapodes. Ça nous permet aussi de comprendre l'éventail possible de ces variations. Et vous voyez ici une expérience qui a été faite par Joseph Zaccani dans mon laboratoire il y a plusieurs années, qui consistait à enlever progressivement la fonction des 6 ou 7 gènes architectes nécessaires à la construction des doigts. Et vous voyez sur la gauche un squelette de pattes de souris qui ressemble beaucoup à votre squelette de pied finalement, une souris normale avec cette pentadactylie. Et vous voyez cette série descendant vers la droite, lorsque l'on enlève 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis tous ces gènes, nous allons vers une adactylie, donc une suppression des doigts. Vous voyez également que nous passons par une étape d'oligodactylie, donc de 4 doigts, de 3 doigts, de 4 doigts. Mais très curieusement, vous voyez qu'au centre, il existe une étape de polydactylie que nous ne pouvons pas éviter. Donc nous ne pouvons pas passer d'une formule pentadactyle à une formule adactyle sans passer par une formule polydactyle. Et l'intérêt de cette observation est venu en fait des travaux de Coates et Clark dans les années 90, qui ont montré qu'effectivement la séquence inverse, en quelque sorte, était une séquence que l'on connaissait dans l'évolution, puisque les ancêtres des tétrapodes au Dévonien étaient des animaux qui avaient une polydactylie, jusqu'à 6, 7, voire 8 doigts, des doigts un peu plus courts qui leur permettaient probablement de se déplacer en milieu benthique dans la vase qui était beaucoup mieux adapté à cet écosystème. Donc en fait, en enlevant la fonction, en enlevant progressivement la fonction de ces gènes architectes, nous passons au travers d'une collection d'atavismes, finalement. Et cette notion d'atavisme nous ramène bien sûr à cette notion de contrainte dans le développement. Nous ne pouvons pas passer de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a une contrainte qui nous oblige à passer par une polydactylie. Ces contraintes développementales ont été bien sûr discutés en long et en large depuis pratiquement plus d'un siècle, et on mentionnait ce matin Bateson, l'école des méristes anglais. Je mentionnerai peut-être plus particulièrement Lancaster, qui avait édicté toute une règle, une série de lois en fait de la méristique. Ces contraintes développementales ont été définies d'une façon relativement claire par John Maynard Smith quand il était étudiant postdoc dans le laboratoire de Louis Volpert avec Per Alberch. Peuvent se définir comme un biais dans la production de phénotypes variants ou une limitation de la variabilité phénotypique causée par la structure, le caractère, la composition ou de la dynamique du système développemental. Comme vous le savez, Stephen G. Gould, qui a été mentionné à plusieurs reprises ce matin, a beaucoup travaillé, a beaucoup synthétisé cette notion de contrainte en présentant deux types de contraintes, deux grandes classes de contraintes. D'un côté, les contraintes formelles qui touchent plutôt à la logistique du système. Et pour reprendre l'analogie que faisait ce matin Madame Edwards sur ces Mini Cooper, on pourrait dire en fait que c'est les contraintes qui touchent à la résistance de l'acier, par exemple, pour couler les arbres à cames, la solidité de la voiture. Et d'un autre côté, les contraintes historiques qui touchent au déroulement des faits dans un contexte phylogénétique. Là, on touche au plan de construction de la voiture. Et il est extrêmement compliqué d'imaginer un plan de construction différent, en fait, pour une voiture qui ne fonctionnerait que sur deux roues ou sur cinq roues. Donc, on a deux types de contraintes relativement différentes. Le premier, discuté abondamment par Haldane et Richard Levantin. Le second, une bonne illustration du second type de contraintes, bien sûr, ce sont les travaux de Darcy Thompson. Alors, que peut nous apporter cette révolution conceptuelle des années 80 dans la considération de l'importance de ces contraintes pour notre vue de l'évolution. Laissez-moi très brièvement vous donner les trois grands points, les trois grands piliers de cette révolution conceptuelle. En 1985, découverte que les gènes du développement, comme tous les gènes d'ailleurs, ont une sorte d'universalité dans le sens où tous les animaux partagent les mêmes gènes. Cinq ans plus tard, on s'aperçoit que les principes qui sous-tendent au développement des animaux, soit intra, soit extra, sont également partagés par tous. Par intra ou extra, je veux dire, non seulement nous nous développons en utilisant les mêmes gènes et les mêmes principes que d'autres animaux, mais au sein de nous-mêmes, nos différentes parties se développent en utilisant les mêmes principes, qui est un peu différent. Encore une fois, on a ce renvoi entre notre ontogenèse et notre phylogenèse, mais par exemple, un exemple très parlant, qui est celui du développement de nos organes génitaux externes, qui est sous-tendu par toute une famille de gènes et de voies de signalisation rigoureusement identiques au développement de nos membres antérieurs et de nos membres postérieurs. Et les exemples abondent dans ce sens. Ces trois découvertes, en fait, nous ont obligés à changer de paradigme, et nous pensons aujourd'hui l'évolution d'une façon un peu différente, puisqu'il s'agit, entre des animaux relativement simples et des animaux relativement complexes, considérer que ces animaux partagent une grande partie de leur génome. Comment cela est-il possible de faire des animaux beaucoup plus complexes avec des éléments qui... Ce que j'aimerais dire par là, c'est que si l'on considère... Prenons un exemple concret, la mouche qui a à peu près 15 000 gènes, l'être humain qui en a à peu près 20 000, comment est-il possible qu'on ait pu faire un organisme qui... de toute évidence, à une organisation beaucoup plus complexe que celle d'une mouche ou peut-être d'un hématode, Sonorabilitis elegans, qui partage aussi à peu près ses 15 000 gènes, sans penser que ces gènes ont dû devenir extrêmement pléiotropiques, donc ont dû acquérir des multifonctionnalités de tous ordres, en fait. Donc, si l'on postule que les génomes ont été plus ou moins conservés, on doit postuler que pour faire plus compliqué, on a dû faire plus par unité. Donc que les gènes ont dû devenir multifonctionnels, d'où l'origine de la pléiotropie. Mais cette multifonctionnalité, cette complexification des protéines, des régulations, de la topographie génomique, qu'on peut extrêmement facilement observer si l'on compare par exemple la façon dont les gènes sont régulés chez un invertébré et la façon dont les gènes sont régulés chez un vertébré supérieur, cette complexification conduit naturellement à une résistance à la variation. Pour reprendre l'exemple de cette analogie entre les organes génitaux externes et le développement des membres antérieurs et postérieurs, il est très difficile, en fait, de trouver une variation des membres antérieurs et postérieurs sans qu'elle soit associée à une variation des organes génitaux externes. Les médecins travaillant sur les syndromes génétiques touchant à l'un ou à l'autre le savent bien, puisqu'il y a une corrélation extrêmement forte entre la morphogenèse des doigts, la morphogenèse des membres et la morphogenèse de l'appareil génital externe. Et cela conduit bien sûr à une contrainte et une grande stabilité des systèmes complexes. Par système complexe, c'est une appellation un peu qui est sujette à qui n'est pas très clair, mais par système complexe, je dirais les animaux supérieurs, notamment les vertébrés ou, disons, les chordés. Cette contrainte, elle est maximale, bien sûr, si l'on considère le développement dans son ensemble, puisque le développement est un processus temporel. Donc, chaque étape va restreindre la flexibilité des étapes suivantes. Et c'est ce concept qui a été très bien décrit par Waddington, dont nous avons aussi entendu parler ce matin, cette notion de canalisation, cette idée qu'au fur et à mesure que le développement avance, il devient de plus en plus difficile puisque le niveau de contrainte augmente successivement. Et à cet égard, pour répondre à la question du titre de cet exposé, le développement n'est certainement pas un processus que l'on peut qualifier de darwinien puisque le hasard n'y a absolument pas sa place. J'aimerais cependant dire que il existe dans le développement, pour être clair, toute une série de processus stochastiques qui, eux, peuvent être sous-tendus par des mécanismes darwiniens. Donc, il est possible qu'il y ait une certaine sélection sur le résultat de ces processus stochastiques, mais le développement dans son ensemble, bien sûr, ne laisse pas de place au hasard. Il y a une équation extrêmement précise à résoudre de la part de l'embryon. Donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si nous assistons pas à un transfert de la force motrice de l'évolution, de la sélection vers la variation, puisque seules quelques solutions génétiques semblent être disponibles. Il semble que la variation ne soit plus totalement infinie, mais dictée par les contraintes internes du système, qui sont elles-mêmes liées à la multifonctionnalité des gènes et de leur mise en réseau. Donc peut-être sommes-nous en train de passer d'une théorie de la sélection naturelle à une théorie de la variation contrainte. Mais j'aimerais être clair sur ce point précis. Ces deux aspects, ces deux visions de la théorie de l'évolution sont parfaitement compatibles l'une avec l'autre. Il ne s'agit pas de remplacer l'une par l'autre, mais il s'agit d'essayer de voir en quoi cette théorie peut être différente pour les animaux extrêmement simples. Je parle ici des prokaryotes, des bactéries, des levures, dans lesquelles, à l'évidence, chaque gène a une fonction précise. L'exemple des bactéries est clair. Ou si l'on passe à des animaux qui sont polyploïdes, qui ont une redondance génétique, qui ont une grande pléiotropie, une multifonctionnalité, et dans lesquels il est absolument clair que chaque gène a une très grande variété de fonctions, donc un niveau de contrainte beaucoup plus élevé que chez les prokaryotes. Laissez-moi terminer en revenant sur ces relations entre l'évolution et le développement, cette boucle étrange d'un siècle qui a vu la réunification de ces deux discipline. Et on peut se poser la question de savoir si cette réunification va durer, si l'on va partir vers une nouvelle science, une génétique moléculaire expérimentale de l'évolution, ou bien si, à l'inverse, ces disciplines vont se reséparer, un peu comme des comètes, en fait, qui chaque siècle reviendraient se reprendre de l'énergie conceptuelle l'une au travers de l'autre pour repartir et refusionner dans un siècle encore. Ou alors peut-être ces disciplines vont diverger l'une de l'autre pour ne plus se réunir. Et je dois dire que personnellement, je pense qu'effectivement ces disciplines vont se séparer et vont probablement prendre des chemins un peu différents. Ce sont des disciplines qui sont à la fois très proches et très éloignées. Je pense qu'il est absolument essentiel de bien comprendre que le développement n'a pas de valeur explicative pour l'évolution. Le développement ne peut que donner certaines bases à des mécanismes de l'évolution. Et inversement, l'évolution peut donner des clés pour comprendre le développement. L'évolution offre à l'expérimentateur toute une variété de systèmes modèles qui peuvent donner des clés pour la compréhension du développement, mais qui, bien sûr, là encore, n'ont pas de valeur explicative en ce qui concerne le développement. Et à cet égard, j'aimerais dire un petit mot du problème épistémologique qui, à mon avis, surgit de cette nouvelle discipline de l'évo-dévo, dont on a aussi entendu parler ce matin, et des systèmes modèles. Les systèmes modèles actuellement en biologie de l'évolution sont des systèmes qui devraient être utilisés pour essayer de comprendre ce qu'on appelle les core mechanisms, les règles, les fondamentaux en fait, du développement. Un certain nombre de règles qui sont immuables et qui concernent tous les animaux. Or, en fait, si l'on considère les différents systèmes modèles, on s'aperçoit que, bien sûr, ces systèmes contiennent ce jeu de règles fondamentales, mais contiennent aussi des traits adaptatifs qui sortent de ces règles fondamentales et qui sont différents d'une espèce à l'autre. On a par exemple le fait que la mouche drosophile se développe d'une façon extraordinairement rapide est un trait adaptatif très fort. Le fait que les urodèles peuvent régénérer leurs pattes est là aussi un trait adaptatif très fort qui sort de ces règles fondamentales. Et malheureusement, si l'on regarde depuis une dizaine d'années le développement de cette nouvelle science de l'évo-dévo, on s'aperçoit que cette science qui devrait avoir une caractéristique centripète, donc de partir de traits adaptatifs très forts pour venir comprendre les règles fondamentales, est en fait à une tendance centrifuge, c'est-à-dire que l'on étudie les traits adaptatifs, qu'on va vers les traits adaptatifs, puisque par définition, ils sont beaucoup plus simples à étudier que les règles fondamentales. Et tout ceci, en fait, nous pose la question de savoir combien de ces traits adaptatifs nous devrions comprendre pour essayer de comprendre ce jeu de règles fondamentales. Est-ce que la compréhension complète de certains de ces traits adaptatifs va nous permettre de comprendre ces règles fondamentales, ou bien est-ce qu'à l'inverse, nous allons devoir étudier l'ensemble de tous ces traits adaptatifs de chaque espèce pour pouvoir remonter sur la compréhension de ces règles fondamentales, ce qui reviendrait en fait à non choisir un système, ou bien alors à l'inverse de choisir le système le plus mal adapté finalement pour essayer d'en comprendre les règles fondamentales. Et tout cela bien sûr sur le contexte actuel qui est le renforcement des approches holistiques, notamment ce qu'on appelle la métagénomique, où l'on s'aperçoit que ces disciplines sont en train progressivement de se reséparer maintenant, avec d'un côté des approches qui utilisent les génomes entiers comme nous utilisions des gènes entiers dans les années 1980, c'est l'approche métagénomique qui fait beaucoup appel à la technologie, à la bioinformatique, et d'un autre côté l'approche maintenue de la génétique des populations. Il est évident qu'une scission est en train de se repasser à l'heure actuelle entre ces deux disciplines. Bien sûr, cela est encouragé par le terrain assez fertile de l'incompatibilité théorique qui existe entre le développement d'un côté et l'évolution, qui est simplement due à leur statut épistémologique. J'aimerais terminer là-dessus, puisque le développement est bien sûr une science qui est basée sur le postulat de la récurrence. C'est parce que l'on admet finalement qu'à chaque génération, les embryons se développent d'une façon relativement similaire, que l'on peut faire une expérience sur un embryon et puis la vérifier sur la génération suivante. C'est vraiment le postulat de la récurrence. Il existe donc une possibilité d'une démonstration de ce qui se passe, c'est le comment que je mentionnais au début de cet exposé. Le développement, c'est avant tout une approche prédictive, puisque l'on connaît le résultat que l'embryon est censé atteindre. On peut faire une prédiction, une expérience, et la vérifier sur la génération suivante. Alors que l'évolution, bien sûr, c'est une science qui est basée sur le postulat exactement inverse, qui est celui de la non-récurrence. Donc il existe une possibilité d'explication de ce qui s'est peut-être passé, du pourquoi, mais c'est avant tout une approche rétrospective, c'est un résultat que l'on voit aujourd'hui et qu'il s'agit d'expliquer. Donc ce sont des approches qui sont très antinomiques l'une de l'autre. Et un des meilleurs exemples, en fait, de l'antinomie de ces deux approches, c'est bien sûr la notion du temps, sur laquelle je vais revenir pour terminer, puisque contrairement aux physiciens qui ont peut-être mieux réussi que les biologistes à maîtriser les référentiels temporels, il est rigoureusement impossible pour nous aujourd'hui d'intégrer des phénomènes récurrents dans un processus linéaire. En fait, c'est une chose qui est au-dessus des forces des biologistes, et malgré le fait que nous commençons dans le développement à comprendre quelques-uns des référentiels temporels qui sont à l'œuvre, il est encore extrêmement optimiste de penser qu'un jour nous pourrons intégrer ces phénomènes récurrents dans un grand référentiel temporel. Je pense que l'intégration de ces deux disciplines nécessitera la maîtrise de ces référentiels temporels, qui est évidemment extrêmement loin d'être acquise en sciences de la vie. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter les exposés de Vincent Courtillot, Yves Coppens et Denis Duboul dans le cadre du colloque sur la modernité de l'évolution organisé par l'Académie des sciences. Vous pouvez également écouter les deux autres retransmissions sur l'évolution des idées sur le darwinisme, l'origine et l'évolution des vertébrés, et le rôle de la crête neurale dans le développement et l'évolution des vertébrés. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.